9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran vous salue, mais... Camarade,
camarades,
qu'est-ce qui se passe?
Non,
j'ai vu que vous faisiez ainsi.
Vous salue, donc je vous salue.
Ah, d'accord.
Vous
rendez mon salut, merci.
C'est qu'à la radio, ça ne se voit pas.
C'est vrai. Mais vous m'avez un peu perturbé. Ok, je continue alors.
Allez-y.
Bon, alors donc, Maître Serran vous salue, camarade de la radio, pour la 9e émission en direct de l'année 2022. 9e émission, mon cher Philippe, quelle déception. Je constate que vous ne suivez pas. Il ne s'agit pas de la 9e émission de l'année 2022, mais de la 10e. C'était un piège pour voir si vous étiez attentif. Résultat, je vais vous mettre un C-. Vous êtes un mauvais élève. Propos de mauvais élèves, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, il m'arrive parfois de me replonger dans mes souvenirs d'école. Je relis mes cahiers, mes bulletins scolaires, toutes ces appréciations des profs. Je regarde les photos de classe. Ah, que du bonheur, ces années d'insouciance. Ah, j'arrête parce que sinon je vais me mettre à chialer où est passée ma jeunesse, bordel, mon cher Philippe. Mes cheveux, vous êtes où? Monsgeg, es-tu toujours en forme? Ah oui,
non,
c'est vrai,
non,
ça
non,
va.
Non,
j'ai eu peur.
Non,
j'ai eu peur,
non,
c'est l'essentiel. Non mais
on nous a pas
assez dit que le temps était assassin. C'est un secret que les adultes gardent pour eux. Si on m'avait dit, attention, Mourad, le temps va à la vitesse d'une flèche lancée par une arbalète, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça peut aller, eh bien, si on m'avait dit cela, j'aurais profité davantage de chaque instant, de chaque seconde. Mais ainsi va la vie, elle te gifle à chaque coin de rue et tu dois faire avec. Bon, allez, promis, j'arrête de plomber l'émission.
Ah ouais,
allez, évoquons plutôt l'actualité.
Ah, ça va rien plomber, ça.
Ah, oui, Ukraine, allez, toujours la bataille. Mais tu auras tout de même remarqué que c'est la même ambiance que du temps de Charlie Hebdo après les attentats. À l'époque, si tu avais le malheur de dire que tu n'étais pas Charlie, tu étais considéré comme un traître à la patrie, voire même un soutien aux terroristes. Aujourd'hui, si tu dis que tu n'es pas pour l'Ukraine, tu es un traître au monde civilisé. Et si en plus tu es pro-Poutine, eh ben on peut te brûler sur la place publique. Non, aujourd'hui, il faut être absolument ukrainien, te balader avec un drapeau bleu et jaune tous les jours. On a le droit à une vidéo du chef de l'État ukrainien Zelensky pour inviter toute l'Europe et les États-Unis à entrer en guerre contre la Russie. Zelensky qualifié par Bernard-Henri Lévy de Churchill. Rien que ça, ok. Bon, c'est bon, débrouille-toi Zelensky. Il fallait pas chatouiller le grizzly russe. Et en ce moment, il n'est pas bon d'être oligarque russe, voire même tout simplement russe, quand je pense que tous les pays occidentaux n'ont pas arrêté de lécher l'arrêt du fiacre à tous ces millionnaires afin qu'ils viennent investir chez eux. Et maintenant, on les traite comme des parias. On saisit leurs biens. D'ailleurs, j'ai appris que même les cabinets d'avocats anglo-saxons étaient critiqués par le Premier ministre pour avoir conseillé les oligarques russes. Alors, si vous êtes un oligarque russe, n'hésitez pas à contacter Maître Serran. Vous êtes les bienvenus chez moi. Je serais ravi de travailler avec vous pour récupérer vos bateaux et vos avions. Faudrait rappeler tout de même que, contrairement à ce que l'on voit à la télé, il y a beaucoup de pays qui ne condamnent pas la Russie, la Chine par exemple, l'Inde et beaucoup de pays africains. J'arrive pas à avoir de la compassion pour l'Ukraine, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et puis, à cause de ce conflit, le litre d'essence est hors de prix de toute manière. Mon cher Philippe, c'est simple, si le prix de l'essence continue à monter, ça coûtera moins cher de faire un aller-retour à Razawa tous les samedis pour faire le plein. Allez, j'arrête de parler. À vous la parole au 01 53 48 3000. Posez toutes vos questions. Émission sous le contrôle de notre oligarque à nous, Monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Enfin, je rappelle que je travaille à Beurre FM, alors c'est une oligarchie raisonnable.
Bah oui, mais on peut être un oligarque raisonnable.
Oui, c'est vrai.
Bah, on n'est pas obligé de faire dans l'excès.
Bon, non, d'ailleurs, vous ne faites jamais dans l'excès.
Jamais.
C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vous aime, Maître Serran, c'est que vous ne faites jamais dans l'excès ou alors vous ne faites pas exprès.
Voilà, c'est ça. Ouais, hein. Ça fait plaisir ce que vous dites.
Hein, c'est ça.
Ouais.
Bon. Vous ne me l'avez pas montré, votre chronique, avant?
Non, pourquoi?
Non,
il fallait.
Ouais. Quand même.
Mais il n'y a rien de...
Non.
On parle de l'Ukraine.
Vous avez raison.
Voilà, on parle des vieux souvenirs, des cahiers d'école, et de ce qui fait l'essentiel de la vie.
Et ce qui fait l'essentiel de la vie, c'est que la semaine prochaine, nous rentrons dans le mois du Ramadan. Et voilà, Maître Serran, ce qui fait la vie.
C'est exactement
ça.
Et c'est un plaisir non dissimulé. Vive le Ramadan. Et vive la France.
Bon, puisque vous êtes très en forme, Maître Serran, je vais vous tendre deux enveloppes. Il y a deux sujets au choix.
Ouais.
Alors, enveloppe numéro un, c'est pension de reversion.
Ouais.
J'ai un autre sujet, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, il y a du budget. C'est faut-il avoir un visa pour être régularisé ? On sait que c'est un sujet que les auditeurs ne nous demandent jamais.
C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je pensais que quand vous avez parlé d'enveloppe, que dans les enveloppes, il y avait peut-être des bifetons, comme on dit.
Il y a du rouble.
Ouais, c'est ça. Du rouble. Oui, parce qu'il faut maintenant payer son pétrole en rouble.
Ah, c'est du rouble.
Ouais. Bah, on va faire le visa, puisque j'ai vu que ça intéressait beaucoup de nos auditeurs.
Et alors, vous vous faites allumer systématiquement quand on parle de cette question de visa, parce que Maître Serin, vous êtes un affreux. Vous ne voulez pas dire ce que les gens veulent entendre. Donc,
alors c'est vrai, c'est toute la difficulté, mais on va reprendre peut-être le principe, puisque ça c'est important. La base en la matière, mais ça vaut dans tous les pays du monde pour lesquels il est nécessaire. Quand vous pénétrez au sein de ce pays, on vous demande un visa. La base, c'est que le visa, c'est en gros une invitation que l'État français va vous remettre. Donc, je vous invite à venir dans mon pays. Je vous invite à venir dans mon pays et puis ensuite vous pouvez venir comme touriste et les circonstances de la vie faisant que vous décidiez de rester, j'allais dire pourquoi pas, mais on peut comprendre que une personne qui viendrait sur le territoire français sans jamais avoir été invitée, donc une personne qui n'aurait pas de visa, un visa long séjour, un visa en qualité de touriste, un visa étudiant, enfin peu importe la nature du visa, c'est-à-dire sans rien, on peut comprendre que les autorités françaises vous compliquent un peu la vie quand vous venez leur dire « vous m'avez pas invité, mais j'aimerais rester sur le territoire français et être régularisé ». J'avais indiqué que le principe, c'était à minima d'avoir un visa quand même pour ensuite espérer en tout cas être régularisé au sein du territoire français. Des auditeurs ont appelé pour nous dire « mais attendez, moi j'ai pas de visa » et puis on a réussi à me régulariser. Il y a un autre principe en droit et c'est, j'utilise souvent ce terme, c'est le pouvoir discrétionnaire du préfet. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit au préfet que vous allez saisir pour dire écoutez voilà, j'ai pas de visa mais voilà ma situation familiale. Alors je le dis tout de suite, si vous êtes célibataire, vous avez pas de diplôme et il y a pas d'enfant, il y a rien, c'est peu probable que le préfet examine votre dossier, mais il y a des circonstances qui font que le préfet peut aller au-delà de cette règle de droit et considérer que même si vous ne réunissez pas toutes les conditions, même si vous êtes arrivé sur le territoire français sans pouvoir justifier d'un visa, mais par exemple je dis n'importe quoi, mais vous êtes marié ou alors vous avez des enfants, on a des préfets qui considèrent que l'intéressé mérite d'être régularisé. On va pas lui compliquer davantage la vie. Mais on est dans le domaine de l'exception. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que les auditeurs se disent si j'ai pas de visa, la vie va être simple. Non, on est dans le domaine de l'exception. Le pouvoir discrétionnaire, c'est ça. Discrétionnaire, oui, c'est-à-dire je fais ce que je veux.
Mais dans ces cas-là, vous savez ce qui se passe, c'est qu'au standard, on a plein de gens qui appellent et qui disent bah oui, moi aussi,
bien sûr,
m'est arrivé.
Bien sûr. Mais
donc on a cet effet de nombre. Donc,
voilà, c'est
donc,
ça. Mais
c'est une exception, mais qui existe.
Bah, alors, mais le problème. C'est que je suis concerné par ça, j'appelle pour dire attendez, mais moi je suis concerné. Mais statistiquement, vous voyez, là on n'est pas dans le domaine des statistiques, et ça c'est important. C'est-à-dire ça correspond à combien de points sur tous les dossiers, sur toutes les demandes de régularisation de personnes qui n'ont pas de visa et qui se sont cassées les dents. Alors, soit parfois devant la préfecture directement qui dit attendez, c'est hors de question, entre guillemets, l'État français ne vous a jamais invité à venir sur le territoire français, soit devant le tribunal, puisque si la préfecture vous dit non, et elle peut dire non, vous n'êtes pas démunis, vous pouvez toujours saisir la commission de refus de visa, donc vous avez toujours des voies de recours pour le faire, il n'y a pas de difficulté. Mais cette question de est-ce que l'État français vous a quand même invité, elle sera posée par la commission, elle sera éventuellement posée, si la commission vous dit non, au revoir, c'est hors de question, éventuellement posée par le tribunal administratif. Donc je le redis, bien sûr, mais c'est pas parce que vous avez 5 ou 10 personnes ou même 15 personnes qui vous appellent pour dire mais attendez, moi je suis concerné. Je le redis, statistiquement, la probabilité reste quand même faible que les autorités françaises vous régularisent si vous êtes venu sur le territoire français sans jamais, jamais y avoir été invité. Mais encore une fois, on peut le comprendre. Ouais, j'avais pris je vais reprendre le même exemple, mais j'avais pris la dernière fois. Si vous ne m'invitez pas chez vous, et moi je m'impose chez vous, vous n'avez pas forcément envie de me dire, bah tiens, Maître Serin, vous êtes le bienvenu, un repas et un lit. Mais un pays fonctionne comme ça. Si je vous ai pas invité, j'ai pas forcément, moi, préfet, envie de vous régulariser. Maintenant, il y a des circonstances qui sont parfois exceptionnelles et qu'on peut comprendre, ou même, par exemple, des étrangers malades. Ouais, il ne s'agit pas de dire que les préfets ou que la France n'a pas de cœur. Il y a des circonstances qui font que moi, préfet, j'ai ce pouvoir, même si vous ne réunissez aucune condition pour pouvoir être régularisé, je vais l'accepter et on va faire fi de votre visa.
Bon, on n'a pas de statistiques en la matière. Non, on n'arrive pas à savoir quelle est la proportion de dossiers qui sont... régularisé.
Voilà. Mais on va être clair, c'est-à-dire que alors on n'a pas de statistiques officielles, mais ça vole pas très haut. Je le redis parce que on ne respecte pas les règles de droit. Maintenant, encore une fois, cette notion de pouvoir discrétionnaire en droit des étrangers, elle est vraiment importante. Discrétionnaire, c'est que je peux réunir toutes les conditions. Avec mon visa, avec mes fiches de paie et tout ce que je veux, le préfet peut dire non. Et puis je peux réunir zéro condition et le préfet peut me dire oui. Il n'y a que le tribunal, si vraiment le préfet dit non, il n'y a que le tribunal qui pourra éventuellement considérer que le préfet a commis un excès de pouvoir, que le préfet n'a pas apprécié correctement la situation. Mais encore une fois, cette notion de pouvoir discrétionnaire, d'ailleurs, sauf erreur, je crois qu'elle n'existe qu'en droit en droit des étrangers, où le préfet fait en gros ce qu'il veut.
En termes de dossiers que vous avez eu à gérer avec justement des personnes qui n'étaient pas rentrées avec un visa, qu'est-ce que ça donne?
C'est, encore une fois, il faut...
Vous pouvez partir de votre expérience personnelle.
Bien sûr, en dehors de la personne elle-même, entre guillemets, l'atout de notre client, ça va être sa famille. Il est certain que si vous avez une épouse, il est certain que si vous avez des enfants et que les enfants sont scolarisés, évidemment que ça va aider l'intéressé à être régularisé. Maintenant, j'ai pas de dossier, pour être clair, où un client... célibataire, pas de membre de la famille qui vient et qui dit j'ai pas de visa et puis est-ce que je peux être régularisé, j'ai pas de dossier honnêtement et d'ailleurs je vais être clair, moi par principe je déconseille même à l'intéressé de d'engager la procédure à ce stade-là, ou alors je l'invite à aller voir quelqu'un d'autre, mais ce serait pas sérieux de lui faire croire que entre guillemets que ce serait jouable. Maintenant, si évidemment vous êtes un étranger souffrant, malade, c'est jouable. Si vous avez une épouse, si vous avez des enfants et scolarisés, c'est jouable. Mais quelqu'un qui viendrait seul, un célibataire, ou qui nous dirait, parce qu'on l'entend souvent, mais j'ai des frères, des sœurs qui sont régularisés, ça pose pas de difficulté. Si vous êtes majeur, donc on va vous dire, ok, vous êtes majeur, si vous avez peut-être des frères, mais vous ne réunissez pas les conditions nécessaires pour faire en sorte d'oublier que vous n'avez pas de visa. Donc, sans visa, c'est possible, mais ça pèse moins sur la personne elle-même que sur son entourage familial. Et l'entourage familial, c'est le cercle familial très très court, c'est votre femme et vos enfants. Après, les cousins, les frères, les sœurs, si vous êtes majeur, ça n'aide pas beaucoup si vous n'avez pas de visa pour être régularisé.
Si on a un visa qui vient d'Espagne, par exemple.
On a beaucoup de...
Parce que là, de plus en plus, on a
L'Espagne est généreuse.
Ressortissants, c'est vrai. Qui posent ces questions.
Absolument. Et moi, je constate que l'Espagne, en tout cas par rapport aux autorités françaises, et même l'Italie, est généreuse. On a beaucoup de clients qui viennent avec des visas espagnols et des visas italiens. Donc, on peut engager des procédures. Mais, je le redis encore une fois, c'est... quelqu'un qui serait célibataire et qui dit je suis venu avec un visa espagnol, ça reste évidemment beaucoup beaucoup plus compliqué. L'atout de celui qui va engager la procédure, c'est son cadre familial, son cercle familial. Mais si vous venez, vous avez une famille, vous avez une femme, vous avez des enfants et vous venez avec un visa italien, un visa espagnol, bien sûr que vous pouvez engager la procédure.
Parce que là vous êtes rentré à l'intérieur de l'espace Schengen.
Absolument.
Absolument.
Mais en principe, je vous donne un visa espagnol ou italien, c'est pour aller en Espagne ou en Italie. C'est-à-dire que la règle et le principe, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez justifier que, entre guillemets, je peux être éventuellement un touriste, alors je peux aller me balader en Europe, mais c'est d'abord, si je demande la régularisation, ou dans ce cas, sauf si je la demande à l'Italie, mais venir avec un visa espagnol, italien, et demander d'être régularisé en France, on a bien compris qu'il y a un petit peu, entre guillemets, de mauvaise foi. Mais c'est terrible, mais c'est un peu à cause des autorités françaises qui font en sorte de plus délivrer de visas du tout, c'est-à-dire que ce soit des visas long séjour, des visas court séjour, les autorités françaises sont devenues très compliquées. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui viennent et je vous dis surtout par l'Espagne qui est entre guillemets généreuse et par l'Italie.
Maître Serran, alors si vous avez une question à poser à Maître Serran, c'est maintenant que vous composez le numéro du standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et tous les vendredis, vous posez vos questions en direct à Maître Serran. Le numéro, c'est le 01 53 48 3000. Et nous avons Leïla qui est avec nous. Leïla, vous êtes la bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Leïla.
Bonjour Leïla.
Bonjour Maître. Merci Philippe pour ces sujets très intéressants tous les matins. C'est vraiment agréable.
Bon, et c'est vous qui êtes agréable, il faut le dire.
Merci beaucoup, vraiment. Même si on n'est pas concerné du sujet, on apprend tous les matins des choses.
C'est super.
Moi, j'ai une question en maître.
Sinon, mon intervention, Leïla, vous en foutez, quoi. Ouais, c'est-à-dire que moi, on ne me remercie pas.
Ouais. Non, rien, vous.
Non, mais moi, c'est pas grave. Philippe, et c'est
jaloux,
tout.
Jaloux.
Un peu.
Pas du tout,
allez, on vous écoute, Leïla. Allez-y.
Je ne savais pas que j'aurais un jour besoin de vous. Malheureusement, c'est ce que je veux dire. Moi, mon problème, je me suis mariée en 2019 avec un Algérien. On a la cinquantaine passée. Donc, c'était tout bien. Je me suis dit, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et donc, j'ai tout fait pour lui, ses papiers, il les a eus. Sa carte de 10 ans, il l'a eu le mois de mars.
Fallait commencer par là, en fait.
Oui. Ouais. Donc, il a eu sa carte de 10 ans au mois de mars. Et depuis, le personnage a complètement changé. Le premier avion qu'il a réussi à avoir, il est parti en septembre. Et depuis, j'ai rien. Pas de nouvelles, rien du tout.
Ah, il est parti, il a été au pays ?
Oui, il est retourné. D'accord. Il est parti.
Et ça fait combien de temps, là, au moment où on se parle ?
Là, il est parti le 14 septembre.
Le 14 septembre, d'accord. Et ouais, bon, je connais la réponse, mais je vous pose quand même la question. Si vous avez l'impression que cette relation avec vous, c'est essentiellement pour avoir des papiers.
Oui.
Et il vous donne signe de vie quand même. Il vous dit ce qu'il en est, qu'il va revenir, ou vous dit rien.
J'ai mes affaires, je peux pas venir. Je travaille, j'ai mon travail, j'ai mes affaires. Et dans ce cas-là, tes affaires, tu les avais avant. Le départ de cette relation, c'était qu'il n'est pas dans le besoin. Hein. C'est quelqu'un d'un très grand commerçant. Il a vraiment les moyens.
Il n'a pas fait ça pour l'argent, en tout cas.
Non, pas pour l'argent ici. Non. C'était, je ne sais pas. D'ailleurs, le but, c'était qu'on soit ensemble ici, là-bas, qu'on vit ensemble, quoi. On n'est pas. C'était ça qui m'a séduit au départ. Hein. Que je ne serais pas dans le besoin, que j'arrête de travailler, que. Il suit bien à mes besoins et tout ça.
C'est peut-être ça qui l'a fait fuir, Leïla, non ? Moi, une femme qui me dit « je vais être avec toi parce que tu vas subvenir à mes besoins et autres », j'ai envie de prendre la fuite. Hein.
Quand on se marie, faut bien participer à la vie.
Oui, non, mais il y a participer et subvenir aux besoins de madame. Si madame, enfin, si vous êtes en bonne santé, si vous travaillez avant, donc on se dit « tiens, elle arrête de bosser depuis qu'on est mariés ». Ça m'interpellerait un peu.
C'est lui qui m'a dit t'arrêtes de travailler, t'as pas besoin.
Ah d'accord, c'est une proposition de sa part.
Oui, je suis là.
Et vous avez arrêté de travailler?
J'ai arrêté un an, j'étais vraiment, vraiment, excusez-moi du terme, dans la merde. Heureusement que j'ai un travail où c'est moi qui ai demandé, donc j'ai repris mon travail. Hein. Et là, depuis qu'il est parti, il cherche pas, il demande pas si j'ai besoin de quelque chose. Je crois même dans notre loi islamique, il est obligé de subvenir. Même, je dis pas qu'il m'achète des. C'est juste partager le loyer, dire qu'est-ce que t'as besoin.
Enfin, de toute manière, on va laisser les lois islamiques de côté. C'est pas de ma compétence, mais il y a une règle. Quand on est marié, on doit, on appelle ça une contribution en charge du mariage, c'est-à-dire que monsieur doit participer effectivement donc aux dépenses des uns et des autres, aux dépenses du couple. Mais alors il a été régularisé, il a obtenu sa carte de 10 ans il y a pas longtemps.
Mois de mars, il l'a.
D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
Depuis 2019.
Alors souvent. On me dit a priori ça doit être.
Est-ce qu'il y a une limite ?
Voilà, c'est en gros votre question, c'est de savoir est-ce qu'on peut peut-être lui retirer ses papiers puisque.
Hier il a appelé mon frère là-bas, il a donné mes affaires. Hein. toutes mes affaires qui étaient dans la
partie. D'accord.
Oui. Donc je considère que j'ai plus rien. Et puis si je pense, enfin je vais faire une demande de divorce.
Bah de toute manière, il faudra si c'est votre volonté. Mais si vous avez entre guillemets envie de l'embêter.
C'est pas un mariage gris, ça, Maître Serran ? C'est pas ce qu'on appelle, enfin...
Ouais, ça va être difficile à prouver. Le mariage gris, encore une fois, il n'y a pas un texte qui dit qu'il faut être avec madame ou avec monsieur pendant 6 mois, pendant un an.
Le mariage gris, c'est quand il y en a un des deux qui se fait avoir.
Il y en a un qui se fait avoir. Voilà, l'un des deux se fait avoir, à la différence du mariage blanc, où
les deux sont
montés. Voilà.
Ouais.
Donc c'est vrai que vous pourriez... le tacler là-dessus. Donc ça veut dire d'abord engager une procédure de divorce et il faudrait quand même que le magistrat prononce le divorce sur cette base-là, hein. Ce sera un divorce pour faute, pour dire mais il s'est marié avec moi que pour les papiers. Et souvent j'ai des clients qui me disent mais est-ce que je peux également écrire à la préfecture pour signaler l'indélicatesse de l'intéressé. C'est pas exclure. Ensuite, il suffit pas simplement d'écrire à la préfecture pour que la préfecture lui retire ses papiers. C'est-à-dire qu'il pourrait le convoquer, essayer de comprendre un peu l'histoire, et ils seront amenés à se prononcer. Mais ça reste, entre guillemets, une parade pour vous, si vous avez l'impression, et je crois que c'est plus qu'une impression, que monsieur s'est joué de vous et s'est marié avec vous que pour les papiers.
Bah là, il est chez lui avec sa femme. Sur l'acte de naissance, c'est marqué qu'il y a un divorce. J'ai réclamé le jugement de divorce. Il me le présente pas. Il dit il n'y a pas.
Mais vous ah d'accord, vous parlez tout ça au pays.
Oui, là au d'accord. Pays, il est chez lui avec sa femme. Soi-disant divorcé, mais elle habite à la maison. L'extrait de naissance, il y a le juge, il y a la mention divorcé avec madame telle date. Mais l'acte de divorce, je l'ai pas, je l'ai réclamé. J'ai prouve-moi que tu as un acte de divorce. Hein.
Non mais dans l'hypothèse même, madame, dans l'hypothèse même où il vous remettrait ce document entre nous, ça changerait quoi pour vous ? Rien. C'est-à-dire que voilà,
c'est pas un trafic, hein, vu qu'ils le font tous maintenant. C'est facile
non, je sais
d'apparemment.
Pas. Voilà, je sais pas s'ils le font
tous.
Facile,
apparemment, j'ai découvert ça, mais apparemment c'est facile d'avoir une mention divorcée sur l'extrait de naissance.
Il y a beaucoup de trafic en ce moment. Hein. C'est à combien la mention, la Maître Serran, parce que vous avez été au courant des tarifs.
Oui, alors ça c'est pour ceux qui souhaitent avoir un rendez-vous auprès de la préfecture. En principe, on prend rendez-vous via internet, mais on sait très bien que c'est toujours saturé. Vous avez tout le temps la même mention et il se dit, mais moi je l'ai vu au sein de mon cabinet, on a des personnes qui réussissent à obtenir des rendez-vous et ça papillonne entre 600 et
ils achètent
entre 600 et 1000 euros pour avoir un rendez-vous. Je dis toujours aux personnes qui viennent avec ces rendez-vous, faites attention, c'est-à-dire vous avez éventuellement payé pour un rendez-vous, alors vous allez être reçu, mais le résultat à la fin n'est pas garanti. C'est-à-dire que moi j'ai une cliente qui s'est vue refuser et qui avait payé à l'époque 600 euros. Et puis il y a pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi entre guillemets des faux rendez-vous, c'est-à-dire que certains tombent dans le panneau, ils se présentent à la préfecture avec un document et puis ils sont répertoriés nulle part. Donc faites attention à ces faux rendez-vous que vous achetez auprès de X ou de Y.
Alors Leïla, est-ce que Leïla a besoin d'un avocat pour sa procédure?
Là, Leïla a besoin d'un avocat pour sa procédure puisqu'il va falloir d'abord commencer par une procédure de divorce et l'avocat est obligatoire, donc il va falloir commencer par ça, ouais. Leïla. Et rien vous interdit.
Il faut qu'il soit présent.
Pardon ?
Il faut qu'il soit présent ?
Non, absolument pas. Il y a pas besoin. Non, bah heureusement, vous imaginez bien que si fallait absolument que le monsieur soit présent, vous serez toujours marié avec lui. Non, vous pouvez divorcer sans qu'il soit physiquement présent. Quand bien même il serait pas représenté par un avocat, il y a pas de difficulté. Mais il faut le faire parce que là votre situation entre guillemets ressemble à rien. Vous êtes officiellement marié, mais dans les faits, monsieur vit plus avec vous. Il aurait refait sa vie d'après ce que vous nous dites.
Donc il a jamais. Oui, le temps de faire ses papiers, il est resté ici parce qu'il y avait le Covid.
Ouais.
Il est resté ici, voilà.
Sinon, en fait, il a jamais quitté sa femme, c'est ça que vous voulez dire.
Non, moi, je pense, vu que j'ai pas de jugement de divorce, il peut pas le présenter. C'est que pour moi, c'est l'acte de naissance est trafiqué.
Il va peut-être même faire venir sa femme en France. Souvent, ça. Alors ça, c'est pire que tout. C'est un coup de poignard, ça. Ouais. Faut être vigilant.
C'est des enfants mineurs. Il m'a lancé comme ça, là.
Ben oui.
En disant, tant mieux là-bas, tu vas. Oui, ça, c'était. Oui, c'est ce qu'il avait l'intention. Et même dès qu'il a eu sa carte, il me posait les questions pour la nationalité.
Et ça vous a pas mis la puce à l'oreille.
Franchement, elle est là, vous aviez des indices.
Bah, quand même, non?
Ouais.
Ah, beaucoup d'indices. J'avais beaucoup.
Bah alors.
Bah donc, il a pas divorcé. Il faut prendre acte de ça.
Pas à cet âge-là, on est âgé.
Mais c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon. Et je peux vous assurer que même 10 ans après, c'est pareil. Hein. Donc c'est une bonne leçon. Vous avez été aveugle. Vous avez voulu croire à votre histoire. Hein.
Je me suis dit oui, j'ai un homme qui va, voilà, avec qui je vais finir ma vie, et qui sera là, me protéger. Enfin, comme tout le monde, quoi. J'ai pas demandé la lune, hein. J'ai pas
non,
demandé.
Non, mais pour lui, ça devait être plus que la lune.
J'aurais eu peut-être la lune.
Ah oui, c'est ça, oui, la probabilité d'avoir la lune, ouais, était peut-être plus forte. Non, bah là, il n'y a pas mis l'option. Il va falloir, à un moment ou un autre, engager une procédure de divorce. Après, je vous dis, et par rapport à ses papiers, on ne va pas lui retirer automatiquement. Il faut démontrer que ce type ne s'est marié que pour ça.
Ouais.
Après, c'est de la vengeance.
Ouais.
Vous voyez,
vous allez perdre beaucoup d'énergie.
Ouais, d'énergie
beaucoup de temps.
Et de la mauvaise énergie.
Ouais,
Leïla,
franchement,
ouais. Vaut mieux vous trouver.
Bah oui, on dit tout ça, mais qui gagne à la fin? C'est-à-dire, maintenant, je vais payer encore l'avocat de ma poche et que monsieur s'en sort très bien. Quoi. Il a gagné.
Bah, vaut mieux, Leïla, que vous trouviez un bon mari. Voilà.
Avec... Non, c'est fini.
Mais non, dites pas ça.
Non,
elle a plus de 50 ans. Là, c'est terminé.
Non, c'est Capri qui est fini, pas Leïla.
Non, à 50 ans, surtout les femmes, elles vieillissent trop mal.
Ça y est, non, il m'a détruit.
Non, mais sérieux.
Il m'a détruit. J'étais quelqu'un de naïf.
Ouais. Bon.
Détruite. Donc, c'est un conseil à tout le monde, ceux qui écoutent. Voilà. Je suis l'exemple. Il ne faut pas faire confiance. Il faut l'acte de diva. Il faut le jugement de diva.
Alors,
les prédécesseurs, voilà. C'est pas suffisant.
Non, mais ce que vous dites, voilà, ce que vous dites, ça c'est un bon conseil à donner, parce que vous n'êtes pas la seule à vous être fait avoir, hein. Mais c'est vrai qu'au début, quand on est amoureux, on a un peu les étoiles
vraiment,
dans les yeux, mais
le
voilà.
Slip qui danse.
Ah oui, non, vraiment.
Au début.
J'étais.
Au début.
Oui.
Bon, bah, ouais, Leïla est d'accord avec moi. Au début, t'as la culotte qui danse.
Elle vous a pas entendu.
Ensuite, voilà, et ensuite, déception.
Ou malin.
Bon.
Donc, confiance plus jamais. En tout cas, merci beaucoup.
En tout cas, vous avez gardé votre bonne humeur,
voilà,
Leïla,
oui.
Heureusement.
J'essaye, c'est ma nature.
On fait un gros bisou, Leïla.
Au revoir, Leïla.
Merci beaucoup. Merci, maître. Merci, Philippe.
Au revoir, Leïla. Maître Serran, je vous rappelle que vous avez votre contrat du mois de Ramadan.
Ah oui,
pendant le mois de Ramadan, pas de string.
Non, c'est vrai, ouais. Mais là, ça n'a pas commencé encore.
Non, mais je vous prépare.
Ah, vous me rappelez qu'il y a le contrat. Ouais.
Walou.
D'accord, Walou.
Rien.
Tahaja, rien. Ouais. Pas de slip, pas de string, pas de poil, pas. Voilà, Walou. Non, mais d'accord. C'est noté, c'est dans mon contrat. Article 2.
Allez, 0153483000. Si malgré cela, vous voulez poser des questions à Maître Serran, vous serez les bienvenus dans un instant.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bon, Maître Serran, est-ce qu'on envoie Leïla chez Vanessa?
Bah, il n'y a que ça à faire, je crois.
Vous croyez?
Ouais.
Pour trouver l'âme sœur.
Ouais, je crois qu'il n'y a que ça à faire.
Bien. Sinon, vous appelez 0153483000. C'est vrai que Maître Serran a toujours 2-3 cousins à marier, hein. Au cabinet.
Ouais, mais 50 ans et plus, je sais pas. Hein. Ou alors les mecs, c'est que pour les papiers, hein, je leur dis tout de suite. Hein. Ouais. Non, mais 50 ans, t'as la peau un peu.
Arrêtez,
elle est pas aussi douce, elle est un peu fripée, quoi.
Arrêtez.
Ah bon?
C'est vous qui êtes fripé.
Bah oui, mais moi je le sais, j'en suis conscient,
les
c'est
femmes
ça,
de
mon
50
truc.
Ans aujourd'hui,
ouais.
C'est des femmes qui ont l'air d'avoir 30 ans.
Oui. Ouais, celle qu'on voit à la télé, les Sharon Stone et tout ça, oui, on est d'accord. Ouais.
Non, Sharon Stone, sinon, elle a pas 50 ans, Sharon Stone.
Ah, mais bah justement, vous voyez. Mais les Zoubida et tout ça, non, c'est pas c'est pas des stars américaines, moi je te le dis. Ouais.
C'est parce que vous êtes raciste.
Non, je suis pas raciste.
Vous n'avez aucun goût.
Non, shorba, le batata et tout ça, ça a des conséquences hein, sur le corps.
Aucun goût, mais aucun goût. Je préfère écouter Amine,
c'est
qui
vrai.
Est au standard. Amine, bienvenue.
Bonjour Maître Serran.
Bonjour Amine.
J'ai une question un peu délicate. Moi, je suis arrivé en France en 2017. Voilà, donc moi, ma femme et deux enfants. J'ai un fils qui est né en France en 2018. Et voilà, je voudrais savoir comment faire et quelles procédures pour suivre.
Vous êtes rentré dans quelles circonstances? Alors qu'un visa pour les membres de la famille, vous-même?
Un visa, oui, avec un visa. D'accord. Avec tout le monde. Hein, tout le monde avec un visa touristique.
D'accord. Et voilà. vous justifiez éventuellement, je ne sais pas, de diplôme, d'une formation professionnelle
Je suis en activité, donc en fiche de paie, j'ai l'équivalent de 3 ans de salaire.
Ouais.
J'ai un appartement que je loue à mon nom. J'ai mes déclarations d'impôts.
D'accord.
Donc, je déclare mes revenus. Mes enfants sont scolarisés dès le premier jour. Donc, ils sont arrivés en mai. Ouais. Mi-mai, ils sont à l'école.
Et la société qui vous emploie, elle connaît votre situation ou pas?
Bien sûr, monsieur.
Voilà. Ouais, ça, c'est important parce qu'on a parfois, je le redis, il faut toujours se méfier. Vous avez parfois des sociétés qui vous donnent des fiches de paye, mais officiellement, vous n'êtes déclaré nulle part. C'est-à-dire que c'est juste un bout de papier, donc il faut quand même faire attention à ça.
C'est quelqu'un de confiance. De d'accord. D'accord. Donc voilà.
Bon, ça, c'est important. Votre interlocuteur, monsieur, ça va être la préfecture de votre lieu de domicile.
Oui.
Donc il va falloir les saisir. Alors, voyons.
Moi, maître Serin, permettez-moi. Dites-moi. Est-ce que je fais ça en tant que salarié ou j'attends pour faire ça sur le statut vie privée familiale?
Non, mais de toute manière, vous savez, là, on peut pas scinder complètement. C'est-à-dire qu'il va y avoir les deux aspects qu'il va falloir mettre en avant. Après, vous pouvez évidemment demander vie privée familiale, mais indiquer que sur un plan professionnel, voilà l'activité que vous exercez, ou inversement, ou en qualité de salarié, mais mettre en avant, puisque c'est aussi un élément important, mettre en avant votre situation familiale. Un enfant né sur le territoire français, des enfants scolarisés. Donc, il va falloir, entre guillemets, panacher les deux aspects. Après, oui, vous pouvez spécifiquement...
La présence d'un avocat ou l'appui d'un avocat est obligatoire.
Mais, alors, je le redis, que ce soit devant la préfecture, que ce soit devant un tribunal administratif, c'est un domaine où l'avocat n'est pas obligatoire. Mais, bon, vous savez, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire quand on veut divorcer, l'avocat est obligatoire, c'est la loi, c'est comme ça. Là, l'avocat n'est pas obligatoire, mais ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, complexe, tant devant la préfecture que devant le tribunal administratif, et peut-être même encore plus devant un tribunal administratif. Donc oui, c'est fortement conseillé. Bien sûr.
D'accord. Donc, parce que moi, j'ai réuni les conditions pour faire une admission salariée, mais j'attends le mois de mai pour statuer sur vie privée familiale.
Je le redis, vous réunissez quand même des éléments qui concernent les deux statuts. Donc, ça reste quand même un dossier. Alors, je vais mettre quand même des guillemets favorable dans le sens où l'avocat a matière. À plaider entre guillemets ou invoquer ces éléments-là devant la préfecture.
Vous êtes dans quel secteur d'activité, Amine?
Dans la, je suis routier dans la livraison.
D'accord. Ok.
Et excusez-moi, Monsieur Terran. Donc pour le rendez-vous en préfecture, quand il s'agit de vie privée familiale, est-ce qu'il faut un rendez-vous pour chaque membre de la famille ou un seul suffit?
Non. Alors déjà, si vous réussissez à avoir un rendez-vous via Internet pour vous, vous êtes un homme heureux. Donc il faut savoir que c'est très compliqué. Voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez sur le site internet de la préfecture, quelles que soient les préfectures, vous avez toujours la même mention en disant que là, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous, essayez demain, après-demain.
Pas de plage horaire.
Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à faire des captures d'écran à chaque fois que vous vous connectez. Et il y a deux options. Soit vous allez devant le tribunal administratif, c'est une procédure de référé pour demander au juge d'obliger la préfecture à vous fixer un rendez-vous. Soit alors on reprend entre guillemets la vieille méthode qui consiste à saisir la préfecture en recommandé AR en disant que on justifie que le client a essayé de prendre rendez-vous via internet mais ça n'a pas fonctionné. Et puis il y a un délai. Ils ont 4 mois pour apporter une réponse. Si il y a une réponse, alors qui peut être oui ou non. Alors si c'est oui, tout le monde est content. Si c'est non, il faudra aller devant le tribunal. Si au bout de 4 mois, il n'y a pas de réponse, en droit, on appelle ça un refus implicite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'administration a le droit de ne pas vous répondre. Passé un certain délai, on considère que c'est un refus. Et à ce moment-là, l'avocat pourra éventuellement saisir le tribunal administratif.
D'accord. Donc, mais au cas où j'ai un rendez-vous, est-ce qu'un seul suffit ou pas?
Ah oui, non mais de toute manière, je le redis, si vous avez
un rendez-vous pour toute la
famille. C'est un rendez-vous pour toute la famille. Il est impossible d'avoir un rendez-vous pour chaque membre de la famille. Ou si vous y arrivez, jouez au loto.
Donc, moi, je me connecte, donc je saisis mon nom, mon prénom et
bien sûr, et vous viendrez avec les documents qui concernent votre épouse et le ou les enfants.
D'accord. Donc l'un ou l'autre peuvent marcher, mais voilà, il faut bien argumenter, c'est ça.
Mais alors, faut bien argumenter, mais je vous le redis, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous pouvez panacher les deux. Ça reste quand même un luxe, hein. Donc à la fois des éléments.
Panacher les deux, c'est-à-dire c'est quoi?
C'est à la fois
des salariés qui voilà, est rajouté.
Exactement, à la fois des éléments en qualité de salarié, mais vous avez quand même une vie familiale. Vous êtes marié, vous avez des enfants, donc ça reste quand même des atouts non négligeables.
D'accord, ça marche, on verra.
Merci, Amine.
Au revoir,
Amine.
Alors, vous avez Emma qui est avec nous. Emma.
Oui, bonjour, mec.
Bonjour, Emma.
Alors, Emma, simplement, baissez le son de la radio si vous l'avez allumé ou alors...
J'ai le haut-parleur.
Voilà, c'est le haut-parleur qu'il faut enlever. Oui. Voilà, parfait.
D'accord. Voilà. Et moi, je vous appelle, maître, parce que, franchement, on est désespérés. Je vous appelle au sujet de ma fille, qui a de gros problèmes avec son mari. Et jusqu'à là, je ne sais même pas par où commencer. Si vous voulez, elle a vécu avec lui l'enfer depuis 20 ans. 20 années, et nous, on n'était pas au courant de tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne veut plus de nous, il ne veut pas qu'on va la voir. Et on ne savait pas qu'il l'a torturée, elle et ses enfants aussi. Jusqu'à juillet de 2019. En ce moment-là, elle m'a appelé carrément, elle m'a dit, voilà ce qu'il me fait. Là, il me fait des menaces, c'était vraiment très grave. Donc, je suis partie la voir, on a amené la police, je l'ai ramenée chez moi. Mmh. Ensuite, bon, elle est restée chez moi, ils l'ont ordonné de sortir de l'appartement, parce qu'ils ont un appartement qu'ils ont acheté. Et il est sorti, donc elle est retournée, au bout de deux mois, elle est retournée dans son appartement. Et depuis, elle a les preuves, elle a enregistré avec qu'est-ce qu'il leur fait. Il est, pour taper les enfants, il augmente la musique pour que les voisins ne s'entendent pas. Et il est devenu complètement incontrôlable. C'est pire que les 20 années passées, quoi. C'est encore pire. Et, oh là là, je ne sais pas ce que je vous jure. Et donc, ils sont retournés chez eux et elle a entamé une procédure de divorce. Et c'est là le problème, il ne veut pas la lâcher.
Ah, est-ce qu'elle a demandé ce qui s'appelle une ordonnance de protection, madame?
Oui, elle voilà. A ça. Ça bon, elle ben a, voilà. Il n'a pas le droit de s'approcher d'eux.
Exactement. Mais pour répondre à ce que vous dites, s'il ne la lâche pas, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il ne respecte pas cette ordonnance de protection, il suffit pour votre fille d'appeler le commissariat du coin. Et ensuite, alors soit le type comprend, mais s'il comprend pas, il peut comparaître devant un tribunal pour ça, devant un tribunal correctionnel. Est-ce que ces démarches ont été faites?
Non, mais vous avez pas idée. C'est pour ça que je vous appelle, parce que, excusez-moi, mais je crois que le diable, il peut pas jouer contre lui, vous savez. C'est un joueur. Personne n'arrive, même les juges, les avocats, ils disent qu'ils ont jamais vu quelqu'un comme ça. Ils disent que c'est un pervers narcissique, mais ils refusent de passer un examen médical pour prouver sur une ordonnance qu'il est
non
comme
mais
ça.
Madame, on peut, y a personne qui peut obliger quelqu'un à dire qu'il est voilà. Pervers. Alors en plus, le terme pervers narcissique, entre nous simplement, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi, j'entends tout le monde l'utiliser à tort et à travers. Mais les règles sont simples, madame. On est en France, donc il y a une ordonnance de protection. Alors oui. Soit il respecte et puis tout va bien, soit il respecte pas et puis
il est hors la loi.
Voilà, ça vaut pour votre fille comme pour toutes les femmes qui pourraient éventuellement nous écouter. Le commissariat intervient et puis si le type continue de faire l'idiot, il comparaît devant un tribunal correctionnel et il y a un truc qui s'appelle la casse-prison. Mais voilà, je suis surpris quand les avocats vous disent on n'a jamais vu un type pareil. Voilà, ils ont prêté serment hier. Mais
voilà,
il n'y a rien d'extraordinaire dans le comportement de monsieur, malheureusement.
Oui, c'est ça, excusez-moi, mais j'aimerais bien que vous nous éclairiez parce que là, on est perdu. Justement, et il ne la lâche pas, pourquoi? Parce qu'il ne s'approche pas d'elle, parce que comme ils ont dit avec l'ordonnance, il est trop, trop malin. Il est trop malin. Mais le problème est qu'à chaque fois qu'il est condamné, il fait une cassation. tout le temps comme ça. Mais il lui a dit, de toute façon, je vais te pourrir la vie. Et qu'est-ce qu'il fait devant les juges? Il pleure toutes ses larmes.
Non, mais madame, la loi n'interdit pas d'être idiot ou de jouer le comédien. Moi, ma question est simple. Vous me dites qu'il y a une ordonnance de protection. Une ordonnance de protection, ça veut dire qu'il y a un juge qui a considéré que, que madame était en danger, que monsieur a été violent. Donc là, s'il y a une ordonnance de protection, c'est que monsieur n'a pas réussi, pardon pour le terme, à bluffer la juge. Il y a quand même une décision de justice qui donne raison à votre fille.
Je comprends pas. À chaque fois, il le condamne, il fait un appel, et voilà, et il s'est reparti, on n'arrive pas à se débarrasser de lui. Et là, ils ont un appartement pour le vendre, monsieur, il veut pas le vendre, il est criblé de dettes.
Madame, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je dis pas que l'ordonnance de protection va faciliter la vie de votre fille. En tout cas, ça la protège. Déjà, il peut pas s'approcher du domicile. Ensuite, ils sont mariés, donc il va falloir engager une procédure de divorce. Et soit le bien est vendu entre guillemets à l'amiable et tout le monde est content. Si c'est pas le cas, si monsieur veut compliquer la vie, il engagera, en tout cas votre fille engagera une autre procédure. Donc les procédures sont longues, mais la loi est quand même bien faite, hein.
Alors, compte tenu de la complexité du cas, Emma, et on arrive à la fin de l'émission, vous pouvez appeler Maître Serran, voilà, après l'émission,
plus simple.
Sur son téléphone portable.
06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Bien, Maître Serran, on vous retrouve vendredi.
Bientôt le ramadan, hein. Ouais.
C'est bien.
Ouais.
J'aime vos encouragements, votre motivation, Maître Serran.
Ben alors, d'une
sans cesse renouvelée avec votre intention. Et en parlant de motivation, demain c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera là entre 10h et 11h pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.